Donc, le lieu de culte dont il va être question, qui est situé au lieu dit des Chenumières à Chasnon, on m'entend assez bien ?
Oui. Non,
d'accord. Fait partie d'une agglomération implantée à 40 km du chef-lieu de la cité des Lemovis, Augusto Ritum, actuellement Limoges. Cette agglomération, on en saisit aujourd'hui mieux les contours de son organisation, les phases de son, et les phases de son développement grâce à un travail de synthèse qui a été élaboré à l'aide d'un système géographique, système d'information géographique, et publié dans la revue Aquitania en 2012. Cette agglomération, à mon sens, il est nécessaire de la présenter un peu dans les détails avant de recentrer le propos sur l'objet de ce séminaire et de s'interroger sur le lien établi entre un ensemble de 49 fosses au sein du lieu de culte public de l'agglomération de Chasnon et la notion de bois sacré. Le site se trouve donc en Charente-Limousine, qui correspond à un espace de transition entre le plateau le plateau Limousin à l'est et la plaine calcaire de l'Angoumois à l'ouest. Et vous avez ici donc en limite des deux zones le site de Chasnon. Le plateau Limousin, qui se caractérise par les premiers contreforts occidentaux du massif central, au relief vallonné, et la plaine calcaire de l'Angoumois, se caractérise par des zones sédimentaires plus occidentales du bassin aquitain. Le site de Chasnon a ainsi bénéficié de possibilités variées et complémentaires d'occupation des sols, qui ont eu un impact certain sur son développement économique. Une singularité géologique a aussi été profitable à l'agglomération. En effet, le sous-sol de Chasnon présente des caractéristiques très particulières. Donc, regardez là, cette flaque-là. Des caractéristiques très particulières qui sont le résultat de la fusion d'une météorite qui a chuté il y a environ 214 millions d'années avec le substrat local. Cette roche de fusion, appelée brèche d'impact ou impactite, très facile à extraire et à tailler, a largement été utilisée pour la construction des édifices de l'agglomération antique. Le site de Chasnon est aussi un lieu remarquable, dans la géographie physique et humaine de l'Aquitaine romaine. L'antique Casino Magus, qui est mentionné sur la table de Peutinger, se trouve localisé aux confins occidentaux du territoire des Lemovis, dont les limites se situeraient à plus ou moins 10 km à l'ouest de l'agglomération. Les marqueurs toponymiques et archéologiques manquent cependant pour la localiser plus précisément. Cet antique Casino Magus est implanté au croisement d'axes routiers et fluviaux majeurs qui fait remarquable la mettait doublement en contact avec le chef-lieu, favorisant ainsi les liens entre les deux pôles. Donc ici le chef-lieu Limoges, et qui est sur le tracé donc, d'un axe majeur de la voie d'Agrippa, qui donc, passe aussi par Chasnon. Les prospections aériennes ont permis d'ailleurs de repérer des tronçons bien conservés, ici, bien conservés donc, au sud, dans le secteur sud du territoire de l'agglomération. On distingue aussi d'autres axes de circulation qui pénètrent dans la ville. Un axe au nord-est, pouvant correspondre à une voie qui mène à l'agglomération antique d'Aulnay. D'autres portions de voie sont repérées au nord, qui pouvaient rejoindre le pont antique repéré dans le lit de la Vienne, donc ici, repéré dans le lit de la Vienne à moins de 2 km. Il est difficile toutefois de savoir s'il s'agit de la liaison entre Périgueux et Poitiers, ou d'éléments d'un réseau plus local. Comme on peut le voir sur cette carte topographique, la ville antique est implantée sur un plateau d'interfluves bordé au nord par la Vienne et au sud par la Graine. Donc, la Vienne et le cours de sinueux de la Graine au sud, qui est un des affluents de la Vienne. L'agglomération était ainsi reliée au chef-lieu par la rivière, dont il suffisait de remonter le cours sur une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre en 2 jours et demi, moins d'un jour dans l'autre sens, donc le chef-lieu de cité. Ainsi, la position privilégiée de l'agglomération antique a été un atout important pour son développement économique et urbain, faisant d'elle un pôle très attractif et dynamique. Par voie d'eau ou terrestre, Cassino-Magus était facilement accessible aux habitants du chef-lieu et du reste du territoire de la cité, mais aussi aux populations des cités limitrophes que sont les Pictons au nord, les Pétrucors au sud, les Santons et celles du Pagus angoumoisin à l'ouest. Le site de Chassenon a longtemps été vu essentiellement par le biais de sa parure monumentale, dont les imposantes ruines, là je fais référence au temple dit de Montélu, qui fait partie du sanctuaire des Chenevières, ou encore les thermes de Longjat, ont attiré l'attention dès le XVIIIe siècle. Durant un peu plus d'un siècle, certains locaux, archéologues amateurs, se sont intéressés à ces vestiges. D'autres y ont trouvé un intérêt économique avec la transformation, par exemple, de l'édifice de spectacle en carrière de pierre. On a ici une photo avec l'inscription donc, « carrière gallo-romaine ». D'abord identifié comme une agglomération de monuments à caractère strictement religieux, le site est, depuis la récente reprise des recherches que j'évoquais donc en début de la communication, identifié à une vaste agglomération qui s'étend plus ou moins sur 140 hectares, une agglomération aux fonctions routières, économiques, culturelles, désormais bien attestées. Cette agglomération se distingue toutefois par une parure monumentale hors norme et la monumentalité des édifices fait aussi écho à celle des espaces vides de construction qui constituaient en quelque sorte les articulations de l'agglomération. Dans le tissu urbain qui commence à se dessiner aujourd'hui, l'ensemble monumental donc, que vous repérez à cette flaque-là, qu'il faut étendre au moins jusqu'ici. Hein. Cette carte n'a pas pu être actualisée récemment, mais on sait depuis les fouilles récentes que l'ensemble monumental s'étendait au moins donc jusqu'ici. L'ensemble monumental donc, occupe une place importante. Les édifices publics, à savoir les thermes, le sanctuaire, l'édifice de spectacle, sont regroupés dans une aire de 18 hectares approximativement, soit à peu près le quart de l'espace urbain le plus dense de l'agglomération, et ce donc dans la partie est de l'agglomération. Ces édifices publics sont mis en place pour la plupart vers la fin du 1er siècle ou le début du 2e siècle de notre ère. D'autres édifices publics sont pressentis en dehors de cette zone et en particulier dans le secteur ouest de l'agglomération, mais leur fonction reste à toutefois confirmer. Quant aux espaces réservés à l'habitation ou aux activités artisanales, ils ont été localisés dans plusieurs zones. C'est le cas notamment au sud de l'aqueduc, donc l'aqueduc qui borde au sud l'ensemble monumental, hein, l'aqueduc qui vient de l'est et qui rentre dans l'agglomération donc par l'est et qui sépare les quartiers domestiques artisanaux sud de l'ensemble monumental nord. Et, ou alors donc, dans cet espace sud, un véritable quartier occupé entre le 1er et le 3e siècle est en train d'être mis en évidence, avec ses ruelles délimitant des îlots irréguliers, ses maisons plus ou moins luxueuses et ses probables ateliers et boutiques. Au nord, sous le bourg actuel, remarquez l'emprise très réduite actuellement du bourg hein, de Chassenon par rapport donc, à la monumentalité de l'agglomération antique. Donc, sous ce bourg actuel, d'autres traces d'activités domestiques et artisanales essentiellement précoces, donc tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, ont été mises au jour dans un secteur où de très nombreux puits sont connus depuis longtemps, puits qui ont été comblés dans le courant des 2e et 3e siècles pour la plupart. Enfin, il nous manque, pour délimiter plus précisément cette agglomération, la localisation indiscutable de ces nécropoles. Les premiers développements de l'agglomération se situent chronologiquement durant la période romaine précoce, sans doute favorisés par la mise en place des nouveaux cadres administratifs de la Gaule et de l'axe Lyon-Saintes, apparu entre le début du 1er siècle et les années 50 de notre ère. Les vestiges en ont été récemment révélés dans le secteur est de l'agglomération, précisément dans le bourg de Chassenon, mais aussi au sud, donc dans le bourg de Chassenon, au sud de l'aqueduc, ici, et sous les édifices de l'ensemble monumental. À cet endroit, ces vestiges se caractérisent par de nombreux creusements dans l'impactite, donc des creusements de type fossé ou fosse, certains de taille très imposante. Leur fonction est pour l'heure difficile à cerner, faute d'une vue d'ensemble de leur organisation et de leur chronologie. D'autres vestiges des débuts de la structuration de l'agglomération ont été récemment fouillés dans les quartiers sud, donc au sud du lieu de culte et de l'aqueduc. Au lieu dit le Grand Villard, les plus anciens consistent là encore en des fossés et des fosses, mais dès le milieu du 1er siècle, les premiers niveaux de circulation, donc matérialisés donc ici, les premiers niveaux de circulation de type rue se mettent en place, bordés par des bâtiments. Le fait vaut d'être noté, car ces axes ont défini dès les premiers temps de l'agglomération les grandes orientations de celle-ci. L'aménagement de l'ensemble monumental ne les a en effet en rien modifiés. Cet ensemble monumental, de monuments publics, a été mis en place dès la fin du 1er siècle après Jésus-Christ ou au début du 2e siècle. Et cette implantation de grands monuments marque la phase de monumentalisation de l'agglomération, avec la construction, raisonnée comme un ensemble unitaire, d'un sanctuaire. Alors, que l'on voit ici, cette vue aérienne, partiellement. On a ici l'esplanade est du lieu de culte. Donc, construction d'un lieu de culte, de termes, dit les termes de Longeas, situés en contrebas du lieu de culte, donc dans un vallon, d'un théâtre, qui n'a jamais fait pour l'heure l'objet de fouilles, il a été dégagé et exploité comme carrière au XIXe et au XXe siècle, et enfin de l'aqueduc, qu'il faut resituer donc ici, dans le cours, et qui remonte au moins jusqu'au lieu de culte. Mentionnons peut-être aussi deux petits édifices qui sont perdus dans les bois, dans la partie est de l'ensemble monumental, donc qui sont localisés ici. De petits édifices qui pourraient être identifiés comme à des temples. Voilà en plan cet ensemble monumental avec ici le lieu de culte qui s'étend largement vers l'ouest. Sur la vue aérienne, on n'avait que cette partie-là. Les thermes, le théâtre, donc l'aqueduc et les petits édifices dits de Longeas. Si les quartiers sud d'habitat ont été épargnés par l'implantation des monuments, qu'ils ont même accompagnés en se développant, il en est autrement des quartiers nord-ouest de l'agglomération, dont les franges sud et est ont été colonisées, ce qui mit un terme aux occupations antérieures. Et c'est le fait essentiellement du grand lieu de culte des Chenevières qui, pour l'heure, s'étendrait sur au moins une superficie de 6 hectares. Remarquez que la partie est du lieu de culte n'a pas fait l'objet de constructions modernes. Elle est juste, c'est déjà pas mal, traversée par une route qui coupe en deux l'espace qui va nous préoccuper dans un instant. La partie ouest, en revanche, est occupée par des îlots privés. La partie est appartient à un parc archéologique de la ville actuelle. Et donc la partie est est constituée d'îlots privés avec construction de maisons et aménagement de jardins, voire de prés plus vers l'ouest. Couvrant près de 6 hectares, donc voici son plan tel qu'on peut le définir d'après les données actuelles, enfin toutes récentes. Couvrant près de 6 hectares, le lieu de culte des Genevières surplombe les quartiers de l'agglomération et ferme à l'ouest l'ensemble monumental. Il est formé de deux vastes cours ceintes par un mur dont on ne connaît pas encore la localisation précise du côté ouest, mais qu'on a de bonnes chances de pouvoir trouver à proximité d'une route donc, qui passe par ici. Il est tentant de restituer une entrée monumentale sur ce tronçon ouest. La vaste cour, donc ouest, accessible par cette possible entrée, avait sans aucun doute la capacité d'accueillir une foule de sacrifiants, pénétrant dans le lieu de culte depuis les quartiers ouest, nord-ouest et sud-ouest de l'agglomération. Les portiques, donc hypothétiques à l'ouest, mais assurés en partie nord et en partie sud par la prospection géophysique. Ces portiques donc étaient destinés aux hommes, ainsi que les absides ouvrant sur la galerie sud. Le décor peint qui agrémentait ces espaces participait à la monumentalité de l'architecture. Des plaques ont pu être remontées, permettant ainsi une restitution partielle du décor du portique adossé au mur sud de Péribole. Et en l'état, le décor donne à voir un segment de colonnes corinthiennes fictives, permettant un jeu de trompe-l'œil avec la probable colonnade que devait border le portique du côté intérieur du lieu de culte. Ces portiques donnaient accès au nord et au sud à des pièces. Donc, au nord, ici, et au sud, des pièces qui constituent les articulations entre les murs d'enceinte des esplanades ouest et est. La fonction de la pièce sud n'est pas connue, elle n'a pas fait l'objet d'une fouille pour l'heure. En revanche, la pièce nord faisait office de vestibule à la jonction entre le portique du lieu de culte et une galerie longeant le mur de Péribole nord du lieu de culte, galerie qui menait donc vers l'est, vers l'établissement de bain de Longeas. Le cadre architectural, l'aménagement de l'aire cultuelle au sol ascendant vers l'est, la mise en perspective de l'édifice de culte, donc du temple, donnée par l'élargissement progressif de la cour vers la haute esplanade, tout concourait à mettre en valeur le temple sur podium, établi donc sur l'esplanade est du lieu de culte, au-devant duquel, du côté est, donc ici, s'ouvrait un large hémicycle d'une longueur de 100 mètres à l'ouverture. La vue qui s'offrait depuis l'ouest, donc depuis la cour ouest, était celle d'un grand temple dont la face arrière ouest, pourvue de degrés, possible en marchement donc, d'accès à la galerie. Donc nous sommes ici, devait donner l'illusion d'une façade d'entrée monumentale. Les façades nord et sud de l'édifice de culte, identiques, devaient produire le même effet lorsque les sacrifiants pénétraient dans la cour est depuis les entrées sud et nord du Péribole. Le temple, comme vous avez pu le remarquer sur la diapositive précédente, est centré sur l'esplanade, l'esplanade est, qui couvre à peu près une superficie de 2 hectares. C'est un édifice de plan centré octogonal, sur podium en croix grecque, d'une hauteur de 2,61 m, et qui s'inscrit dans un diamètre de 50 mètres. La cella est de plan octogonal, et la galerie périphérique, elle aussi de plan à pan coupé, donc de plan octogonal, et agrémentée donc d'une colonnade. Des aménagements propres au temple devaient donner aussi l'illusion que l'édifice de culte était construit au-dessus d'une source, dont le bassin de captage est conservé dans le pan est du... Alors, c'est ce bassin-là, dans le pan est donc, du podium, donc aménagé dans la maçonnerie même du podium. De là, l'eau était acheminée via une canalisation aménagée dans la maçonnerie du podium est. Donc, canalisation dont un tronçon à la sortie donc, du temple a été mis au jour en 2013. Il nous manque pour l'heure le lien entre ce bassin dit de captage et la canalisation qui sortait du podium. Ainsi, l'eau jaillissant du monument cultuel, telle une source sacrée, traversait l'hémicycle et se jetait ensuite via un exutoire aménagé dans le mur d'enceinte à l'extérieur du lieu de culte. Son parcours se perd ensuite et son usage profane est indéterminé. L'eau pouvait être temporairement stockée pour les besoins du lieu de culte, son nettoyage par exemple, dans un aménagement situé sur la plateforme, sur une plateforme extérieure. Hop, non, c'est pas ça, voilà. Donc, vous voyez la prospection d'image géophysique avec la canalisation qui traverse le mur de Péribole, un grand hémicycle est. Et donc, cette eau pouvait être stockée temporairement dans un probable réservoir dont on a ici donc, les anomalies géophysiques, ou bien pouvait être évacuée vers le nord, vers donc, l'édifice de spectacle. Et là encore, c'est la prospection géophysique qui nous indique la présence d'une canalisation donc partant du sommet de la courbure du Péribole, donc de cette probable canalisation. Dans le cas du temple de Montélu, une source souterraine jaillissant de l'édifice de culte est un artifice. Il est en effet assuré qu'une résurgence ne peut sortir du sous-sol d'un pactite qui est une roche imperméable. Il reste donc à comprendre les aménagements mis en œuvre pour capter l'eau jusqu'au cœur du temple. Toujours est-il qu'il semble que l'on peut parler de temple de source duquel l'eau résurgeait, sans doute en provoquant avec des effets sonores et peut-être aussi visuels. Remarquez enfin que la canalisation est bordée en son centre, donc au cœur même de l'hémicycle est, de deux massifs empierrés, bordés ici par un mur de soutien, donc du côté sud. Ces deux massifs pourraient être interprétés comme les soubassements de un hôtel, voire deux hôtels, donc aménagés de part et d'autre de la canalisation. Le mur de l'hémicycle, apparenté au mur de fond d'une fontaine monumentale, aurait formé un écrin architecturé à l'ensemble canalisation-autel. On arrive enfin à l'objet qui vous intéresse plus particulièrement, à savoir ces 49 fosses qui occupent la partie sud de l'esplanade est. Donc, les voici au sud du temple. Donc, au nord du mur de Péribole, qui passe par ici. Et donc cet espace est occupé par un ensemble de 49 fosses circulaires creusées dans la roche locale, donc l'impactite. Cet aménagement est aujourd'hui traversé par la route de Champongé, que je mentionnais précédemment, la voici, hein, qui coupe en deux cet aménagement. Route qui vient du bourg donc, de Chassenon. Et donc la zone est fait partie du parc archéologique et la zone est en est exclue. L'emplacement de chacune des fosses est aujourd'hui matérialisé par un cerclage métallique rouge qui contient de la terre à plantation aménagée en 2008 lors d'aménagement donc, du parc archéologique. Les fosses sont mentionnées dans la littérature depuis le XIXe siècle et certaines d'entre elles, au moins deux, mais lesquelles, on ne le sait pas, ont été vidées de leur comblement en 1897 par Alain Maffran, donc un archéologue amateur. Avant l'aménagement de 2008 et à la faveur d'un climat sec, L'humidité qu'elles retiennent les faisait apparaître à la surface de la végétation. Et elles ont été ainsi photographiées en prospection aérienne vers la fin des années 1980 par Jean-Régis Perrin. Donc ici, on les voit bien, ainsi que, je n'en ai pas encore fait mention, mais d'une structure, on verra qu'il s'agit en fait d'un canal, qui serpente entre donc les rangs de ces fosses. Plusieurs campagnes de prospection géophysique menées en 1999, puis à partir de 2005, ont confirmé les données déjà acquises sur l'agencement général des fosses et du canal. En 2011, enfin, dans le cadre d'une fouille programmée, deux sondages ont été implantés sur les secteurs nord-est et sud-ouest des fosses et du canal. Donc, sur cette vue aérienne, vous avez ici un sondage en bordure de cet aménagement de fosses, et encore en bordure, ici un deuxième grande tranchée qui ont permis donc de fouiller quatre fosses, de ici et de ici. C'est le comblement. Donc, il était important d'en comprendre le comblement et aussi de vérifier les observations laissées par Alain Maffrand. Quatre fosses donc, ont été fouillées et ont fait l'objet de prélèvements sédimentologiques et paléobotaniques. Alain Maffrand, archéologue amateur, a décrit avec précision l'aménagement des fosses qu'il avait mis au jour. Il en a compté 42, ordonnées en six rangées de sept fosses, et mentionne des canaux secondaires, qu'il dit secondaires, partant de chacune de ces fosses pour alimenter une canalisation principale qui, vraisemblablement, correspond au canal qui serpente entre les fosses. Ces fosses, il les interprète alors comme des réservoirs d'eau à l'usage du théâtre, situé au nord. L'eau y aurait été amenée via un aqueduc, observé sous l'édifice de spectacle et s'orientant vers le lieu de culte. Si toutes ces observations d'Alain Maffrand ne sont pas à rejeter, on va voir que de nombreux rectificatifs doivent néanmoins aujourd'hui être apportés à ce témoignage. Il est aujourd'hui assuré que les fosses sont au nombre de 49, qu'elles forment un maillage de 7 rangées de 7 fosses strictement ordonnées, de 51 mètres de côté environ. L'ensemble couvre donc une emprise de 2600 m². Distantes les unes des autres de 5 mètres, elles présentent des dimensions très homogènes. Elles sont larges à l'ouverture donc de 3 mètres et profondes en moyenne de 1 mètre. De profil en U, leurs parois sont régulières, verticales et leur fond est plat. Les fosses sont indépendantes les unes des autres. Aucun raccordement ne les relie au canal qui serpentent entre les rangs d'un bout à l'autre du maillage d'ouest en est. Donc, les observations d'Alain Maffrand sur ces canaux secondaires n'ont pas été vérifiées lors de la fouille de 2011. Ce canal formé, formé de trois sections coudées, et lui aussi taillé dans la roche sur une profondeur d'à peu près 50 cm. Il était couvert par de grandes dalles d'impactite. On perd son parcours en sortie est de l'ensemble fossoyé. Donc ici, le tracé s'arrête, ici notre tracé, mais il faut bien évidemment le prolonger peut-être vers cette partie-là du site. Les campagnes prochaines, on l'espère, pourront répondre à cette question. Donc, voici une vue du canal dans sa partie est. Alors, il est aussi assuré que l'ensemble de ces 49 fosses est à identifier à un aménagement paysager, c'est-à-dire à des fosses de plantation, sur la base à la fois d'arguments, à la fois archéologiques et micromorphologiques. L'ordonnancement est, hormis les dimensions donc, des fosses qui permettent la plantation de végétaux, l'ordonnancement est aussi un argument. La fouille récente de la villa gallo-romaine du Chiou, dans les Côtes d'Armor, offre un élément de comparaison formel, strictement formel, intéressant pour le cas de Chaston. Un ensemble ordonné de fosses, donc ici, un ensemble donc ordonné de fosses et organise en 7 rangées parallèles de 15 fosses espacées de 5 mètres les unes des autres. Ces fosses, en lien avec la villa, ont servi à la plantation d'un verger ou d'un vignoble. Elles, a priori, elles ne sont pas en lien avec un lieu, de culte. Disons tout de suite qu'à Chassenon, les études paléo-environnementales, en l'occurrence paléo-botaniques, n'ont pas permis d'identifier les essences plantées dans l'espace boisé du lieu de culte, les taxons étant en nombre trop insuffisant. Donc on ne possède a priori aucune information fiable sur le paysage végétal à l'intérieur de ce lieu de culte. En revanche, l'étude micromorphologique réalisée par Carole Vissac du laboratoire Géo-Archéon a fourni des arguments définitifs en faveur des fosses de plantation. Elle a permis de déterminer que leur comblement était lié à leurs usages. Donc on avait affaire à un comblement primaire. Que les différents dépôts identifiés pouvaient être mis en relation avec des pratiques culturales. On retient tout d'abord les dimensions des fosses, donc suffisamment large pour le développement des racines d'arbres. Ensuite, le dépôt basal de ces fosses, au moins des 4 fosses que l'on a pu fouiller, constitué d'un mélange terre-pierre qui évitait ainsi les tassements avec stagnation d'eau importante et facilitait le développement des racines. La nature carbonatée de certains fragments rocheux, contenu dans les niveaux donc du comblement de ces fosses, et quant à lui attribuable à un amendement calcaire des terres acides. Ces mêmes niveaux présentent en outre des attributs d'un niveau superficiel qui a pu être prélevé comme bonne terre de surface et déposé dans le fond de la fosse, comme le préconisent des pratiques anciennes. La présence de constituants anthropiques, l'occurrence des charbons, de la cendre, plus marquée dans les niveaux supérieurs des comblements, pourrait être associée à un enrichissement. Par ailleurs, les indices d'activité biologique sont assez bien représentés. Cette activité s'est développée dans un milieu favorable en termes d'eau et de nutriments. Des phases de saturation en eau ont toutefois été identifiées, mais ne témoignent pas d'engorgement prolongé. Des zones d'approvisionnement limitées ou vides pourraient être liées à la présence de racines. Enfin, on peut s'interroger sur la présence d'une stratigraphie encore distincte, alors que l'activité biologique tend à homogénéiser les couches. Le renouvellement ou l'insuccès de la plantation pourrait être envisagé. Ou bien cela peut signifier que la plantation a végété. À partir de ce résultat, donc de l'identification de fosses de plantation, peut-on pour autant parler donc d'un bois sacré ? On peut tout au plus parler d'un bois artificiel, car cultivé par la main de l'homme. Toutefois, le contexte culturel autorise à parler d'un bois sacré. Je vous dis tout de suite qu'aucun mobilier cultuel, nature rituelle, je pense ici à des agvotos, ne vont aider à la réflexion puisqu'aucun mobilier n'a été découvert lors donc, de ces fouilles récentes. Cet espace végétal ordonné où l'eau est canalisée n'a rien, bien entendu, d'un lieu sauvage, monstrueux, que sont les bois sacrés, créés et habités par une divinité, selon les auteurs anciens. Doit-on envisager cet espace boisé comme l'équivalent végétal d'un temple en pierre ? Si l'on superpose le temple, et sans modifier évidemment les échelles du monument et de l'espace boisé, on remarque l'espace boisé comprend donc trois carrés d'arbres concentriques. Et chaque carré pourrait correspondre à un élément de l'édifice de culte. Ainsi, a-t-on affaire à des fonctions propres à chacun des carrés et peut-on en déduire une hiérarchisation de l'espace boisé. Ici, ce premier carré qui correspondrait donc au podium de l'édifice de culte, ce deuxième correspondrait à la galerie périphérique, à la cella à laquelle pourrait correspondre donc ce dernier espace de plantation, et avec ici donc le cœur même de cet espace boisé. Ce n'est ici que pure conjecture, hein, mais il me semblait qu'il était quand même intéressant de la présenter. Alors, cet espace boisé avait aussi sans doute une fonction pragmatique, celle de protéger l'édifice cultuel, le temple de Montélu, des turbulences venteuses venant du sud-ouest. Et croyez-moi, quand le vent souffle à Chassenon, il souffle très fort, provoqué en outre par la présence du mur de Péribole et des constructions sud. Ces turbulences pouvaient-elles être interprétées comme une manifestation de la divinité qui habitait le lieu? Et cette divinité, qui était-elle? Pour répondre à cette question, ou amener des éléments de réflexion, il faut sans doute aller chercher des éléments de réponse dans une inscription datée du IIe siècle après Jésus-Christ, découverte en 2012 dans les thermes de Longjas par David Ourcade et qui a fait l'objet d'une publication récente dans la revue Aquitania de 2013, sous la plume donc de David Ourcade et Louis Morin. Cette inscription, donc vous avez ici la moitié conservée sur une pierre calcaire et l'inscription ici restituée par les auteurs, hein, l'autre moitié est restituée, commémore la construction d'un édifice, peut-être les thermes de Longjas, par un évergète, Lémovis et ses deux fils. Le monument thermal, dont vous avez ici le plan, fonctionnait vraisemblablement comme des bains à la fois hygiéniques et thérapeutiques en proposant aux utilisateurs deux circuits. La présence de deux grands bassins d'eau chaude, localisés ici, donc dans la partie ouest sud-ouest du monument. Donc la présence de ces deux grands bassins d'eau chaude dans l'angle sud-ouest du corps du bâtiment conduit en effet à penser que la partie méridionale de l'édifice était aussi utilisée à des fins de santé et de bien-être. Étroitement associé aux pratiques cultuelles, cet édifice, qui servait de bain d'entrée au lieu de culte des Chenevières, était placé sous la protection donc, des Numina Augustorum de Mars. Donc, voilà, que l'on peut restituer ici à partir donc, de cette dernière lettre. De Mars Granus Victorieux et de la déesse Dea Cobrandia. Le lien qui unissait les habitants de l'agglomération de Cassinomagus à ceux du chef-lieu était aussi d'ordre religieux. Ils partageaient en effet un panthéon commun. Le seul autre endroit en Gaule où le dieu Granus est lié au dieu Mars est le chef-lieu, donc Limoges. Il est fort probable que le dieu Mars Granus ait été le dieu principal, sinon identitaire, des Lémovis sous le Haut Empire. Il est aussi fort probable que le grand lieu de culte public des Chenevières, à Chassenon, donc lui était dédié. On sait, d'après l'inscription julo-claudienne de Limoges, que le culte de Granus était étroitement lié à l'eau. Posthumus a offert un aqueduc dédié à Mars pour célébrer la fête des 10 nuits de Granus. Donc c'est ce que nous dit l'inscription de Limoges. La conduite acheminait l'eau jusqu'au lieu de culte de Granus, nécessaire pour célébrer le rituel. Elle acheminait donc de l'eau pérenne et en abondance. Or, l'aqueduc de Chassenon a été spécifiquement construit pour alimenter les thermes est et le lieu de culte ouest. Les aménagements hydrauliques liés au temple, je vous ai présenté précédemment, prennent alors du sens dans l'hypothèse où Mars Granus, dieu qui repousse la maladie, est bien le dieu tutélaire du lieu de culte. Le bois sacré au sud du temple était-il le lieu primitif de ce Mars Granus? Ou bien faut-il l'attribuer à Dea Cobrandia, déesse des confins, d'après le déterminant Randa, avec le préfixe cob-con, du latin con. Son théonyme aurait le sens du latin confinalis. Cette déesse, inconnue par ailleurs, donnerait une dimension proprement locale au Mars Granus des Lémovis. Elle rappelle aussi la position en limite du territoire de l'agglomération. Ces confins, limites des terres habitées, devaient être ceux de la forêt. En tout cas, c'était le cas au plus haut où on peut remonter, en l'occurrence au Xe et XIe siècle. Lieu monstrueux peut être la demeure non maîtrisée de Dea Cobrandia. À bien des égards, donc, les monuments singuliers de l'agglomération de Chassenon, et en particulier de son lieu de culte public, constituent de forts marqueurs identitaires. Le bois sacré, on s'accorde pour l'identifier à un bois sacré, du lieu de culte des Chenevières est sans aucun doute à resituer dans ce contexte. Ce bois, on l'a vu, a été aménagé à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ, au sein du lieu de culte public, faisant peut-être écho aux confins de la cité. Mais qu'en était-il antérieurement ? Les fouilles de 2013 ont permis de travailler dans la partie nord du lieu de culte, et en l'occurrence dans la pièce qui faisait jonction, enfin office de vestibule, entre la jonction de deux espaces de circulation. Et on a mis au jour, creusé dans la roche, et donc un ensemble de fosses, plus réduites que les précédentes, de plan quadrangulaire, à peu près un mètre de côté. Donc un ensemble de fosses qui attestent donc une occupation dès les débuts du 1er siècle, donc sous le lieu de culte des Chenevières. Mais ces fosses, la question est aujourd'hui de savoir si elles font partie d'un ancien lieu de culte et si on peut elles-mêmes les interpréter comme un premier espace boisé de l'agglomération de Chassenon. Je vous remercie.